Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Demichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. Il était une fois une vieille reine. Son mari était mort il y a déjà bien longtemps et elle avait une fille qui était très belle. Quand celle-ci eut grandi, elle fut promise en mariage à un fils de roi qui vivait loin de là. Lorsque vint le moment où ils devaient se marier et que son enfant allait partir pour ce royaume étranger, la vieille reine lui prépara quantité de superbes ustensiles et de bijoux, d'or et d'argent, de gobelets et de joyaux, bref, tout ce qui fait partie de la dot d'une fille de roi, car elle aimait son enfant de tout son cœur. Elle lui donna aussi une suivante qui devait l'accompagner et remettre la mariée à son époux. Chacune d'elles avait un cheval pour le voyage, mais le cheval de la fille de roi s'appelait Falada et il savait parler. Quand l'heure des adieux arriva, la vieille mère se rendit dans sa chambre, prit un petit couteau et s'entailla les doigts pour les faire saigner. Elle tenait en dessous un petit chiffon blanc sur lequel elle fit tomber 3 gouttes de sang et les donna ensuite à sa fille en disant « Ma chère enfant, garde-les précieusement, tu en auras besoin en chemin. » C'est donc tristement qu'elles prirent congé l'une de l'autre. La fille de roi mit le petit chiffon dans son corsage, monta en selle et partit pour aller retrouver son fiancé. Au bout d'une heure de voyage, elle ressentit une soif intense et dit à sa suivante « Descends de cheval et va me puiser de l'eau dans ce ruisseau avec le gobelet que tu as emporté pour moi. Je voudrais boire un peu. » « Si vous avez soif, descendez vous-même de cheval et penchez-vous au-dessus de l'eau pour boire. Je n'ai pas envie d'être votre bonne, » répondit sa suivante. Comme elle avait grand soif, la fille de roi descendit de cheval, se pencha au-dessus de l'eau du ruisseau et but, sans avoir le droit d'utiliser son gobelet d'or. Elle soupira alors « Oh mon Dieu !» Et les 3 gouttes de sang lui répondirent « Si ta mère savait cela, son cœur éclaterait de chagrin. » Mais la fiancée du roi était humble et remonta à cheval sans maudire. Maîtres du conte populaire, les frères Grimm ont sillonné l'Allemagne afin de récolter cette mémoire millénaire. Parmi les contes recueillis, celui intitulé « La gardeuse d'oie » que nous allons aborder aujourd'hui avec le docteur Dominique Desmichel. Afin de vous en proposer une lecture jungienne, nous y reviendrons d'ailleurs. Pour entendre ce conte dans sa totalité, il vous suffira de vous rendre sur le site internet de Radio Grand Ciel, radiograndciel.fr, rubrique règlement de conte, et de vous laisser guider. Docteur Dominique Desmichel, bonjour.
Bonjour.
Alors, bonjour Simon. Nous nous retrouvons pour une nouvelle série autour de ce conte La gardeuse d'oie, pour une lecture jungienne. Alors, en quelques mots, afin d'introduire ce conte, qu'est-ce que vous entendez par une lecture jungienne ?
Disons que c'est d'abord une lecture du conte qui essaye de regarder ce que veut dire les contes. Hein. Les contes, c'est un récit, c'est un petit film, un petit court-métrage ou un moyen-métrage ou un long-métrage qui raconte une histoire avec des protagonistes, avec en général une problématique, un conflit et en général une résolution. On a vu dans d'autres émissions qu'en général, les personnages ne sont pas des grands héros à la Batman ou à Superman, mais ce sont des héros un petit peu simples, quoi, au fond, en sachant que le plus souvent, on retrouve des personnages un petit peu typiques ou archétypiques, hein, que sont un roi, une reine, des enfants, un ogre, une sorcière, une gentille fée, une méchante fée. Voilà, on retrouve cette espèce d'ensemble de personnages, plus un bestiaire avec des animaux. Alors ici, la gardeuse d'oie, bah, par exemple, il y a les oies, encore qu'on n'en parle pas beaucoup, vous verrez, on parle surtout d'un cheval, ou de deux chevaux, ou de plusieurs chevaux. Voilà.
Les faibles ont souvent le dernier mot dans ces contes.
Oui, alors justement, l'idée d'une lecture jungienne, pour reprendre votre question, ça serait d'essayer de se dire, le conte nous raconte quelque chose autour d'un conflit à l'intérieur de nous-mêmes. À l'intérieur de nous-mêmes, on a plusieurs personnages qui nous habitent. Il y a notre moi d'abord, c'est celui qui décide de notre vie à peu près tous les jours. Mais on a des tas de personnages plus ou moins sombres, certains qu'on aime, certains qu'on n'aime pas, certains qui nous tirent, certains qui nous accompagnent, voilà. Et on a en particulier les images intérieures de notre père, de notre mère, de nos grands-parents, de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants, de nos conjoints, de nos conjointes, voilà. Donc tout cet ensemble de personnages, ça fait un théâtre intérieur. Le conte, c'est un petit récit sur un théâtre intérieur qui est raconté à partir d'une problématique particulière et puis d'un conflit. Voilà, donc on va voir dans cette histoire que il y a une situation de départ, il y a quelque chose qui doit se passer et puis en fait ça se passe mal et puis ça se résout d'une certaine façon.
Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi ce conte ? Qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux à la première lecture ? Très rapidement.
Alors,
pourquoi ce choix ?
Oui, ce choix, il me semble intéressant parce que vous allez voir que dans ce conte, il y a une sorte de conflit entre deux figures féminines. Une qui est la fille d'un roi et l'autre qui est sa suivante. Il y a ce conflit à l'intérieur de ces deux, entre ces deux personnages. Et puis, il y en a une qui va prendre toute la place, puis disparaître. Et il y en a une qui, au début, n'a pas de place et ensuite va trouver sa place. Voilà, et je trouve que c'est intéressant parce que on a l'impression dans une première lecture qu'il y a la gentille et la méchante. Et puis, on s'aperçoit que la gentille, elle n'a pas beaucoup de personnalité et que la méchante, elle n'est pas si méchante que ça et que finalement elle est un petit peu le nœud du récit, le nœud de la problématique. Et puis il va y avoir d'autres personnages qui vont apparaître, en particulier des figures en gros parentales. Les figures parentales sont souvent représentées par un roi et une reine et on va s'apercevoir que ces personnages-là aussi apparaissent sur différents visages.
Eh bien, démarrons justement avec les personnages puisque les premières lignes de ce conte présentent une vieille reine et son mari qui est décédé il y a déjà bien longtemps, plus une fille très belle. Voilà, nous sommes dans le schéma classique du conte.
Exactement, c'est-à-dire que là, au fond, on a trois personnages. On a d'abord une vieille reine qui ouvre le récit. Elle est âgée et elle est veuve. Voilà, deux éléments que l'on connaît. Et elle n'a en tout cas pas de compagnon, soit parce que si l'on actualise, si je puis dire, de manière un petit peu provocante les choses, soit parce qu'elle a perdu son mari parce qu'il est mort, soit parce qu'il est parti, soit parce qu'il y a eu un problème dans le couple et qu'il est souvent absent, par exemple en déplacement professionnel et jamais absent, et jamais présent, ou toujours absent. Enfin, vous voyez, il y a cette problématique. Premier personnage. Le deuxième, c'est la figure du roi, hein, qu'on nomme, c'est celui dont je viens de parler, et il est important parce qu'on va voir plus tard dans le conte une autre figure, en gros de roi ou de figure paternelle, qui va arriver.
En tout cas, on a un déséquilibre dès le départ, une autre caractéristique des contes.
Voilà, exactement. Et puis le troisième personnage, qui va être le personnage un petit peu central, puisque c'est autour d'elle que le récit va se passer, ce personnage central, c'est une fille.
Très belle.
Voilà, elle a l'air en gros en quelque sorte définie par sa beauté et on s'aperçoit dans la petite phrase d'après, mais peut-être je vous laisse la lire.
Eh bien, quand celle-ci fut grandie, elle fut promise en mariage à un fils de roi qui vivait loin de là. Donc, quatrième personnage, le fils d'un roi.
Voilà.
Étranger.
Voilà, exactement. Donc il y a les quatre personnages et il y a surtout une problématique, c'est-à-dire la problématique c'est la fille doit trouver son homme, elle doit trouver son mari, elle doit trouver son époux, elle doit trouver son prince, elle doit trouver en tout cas son homme, je dirais globalement, et il faut qu'elle aille chercher ailleurs, hein, puisqu'on dit il vivait aussi loin de là.
Alors, poursuivons. Donc, elle doit trouver son homme. Eh bien, cette affaire est résolue par la vieille reine qui va donc envoyer sa fille simplement se marier. Il est temps de l'envoyer se marier avec ce prince qui lui est promis.
Oui. Et donc, on sent bien, vous voyez, que dans cette histoire, dès le début, le conte nous dit qu'elle ne peut pas se marier avec le prince qui habite dans l'immeuble d'en face ou qui habite dans le quartier juste à côté. Hein. C'est-à-dire, le fils du roi vit loin de là. Donc, il faut l'entendre dans une distance géographique, mais aussi une distance psychique. Hein. Voilà, on repense à tous les travaux, par exemple, de l'anthropologue Lévi-Strauss autour du tabou de l'inceste, par exemple, et qui dit... Il faut aller chercher son conjoint de l'autre côté de la mer, du fleuve, de la rivière, de la frontière. Hein, c'est-à-dire, voilà, on ne va pas se marier dans une dimension familiale. Il y a une exogamie, c'est-à-dire il faut chercher ailleurs le gamos. Hein, hiérogamos, ça veut dire le mariage sacré. L'exogamie, ça veut dire le mariage en dehors. L'endogamie, c'est le mariage à l'intérieur. Donc, il faut aller chercher loin son prince.
Et cette vieille reine, pour préparer le voyage, justement, prépare une quantité de superbes ustensiles, est-il écrit, de bijoux, d'or et d'argent, de gobelets et de joyaux, bref, tout ce qui fait partie de la dot d'une jeune fille de roi.
Et la dernière petite phrase est tout à fait importante aussi, car elle aimait son enfant de tout son cœur. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui est donné au niveau des objets, mais qu'aussi il y a des sentiments. Et on a un petit peu l'impression, je vais y revenir un petit peu après probablement, on a un petit peu l'impression ici que la mère a reporté son amour ou a porté son amour sur sa fille, exclusivement sur sa fille, peut-être parce qu'il n'y a pas d'homme.
En tout cas, ce sont des objets qui ont du sens.
Oui, ces objets qui ont du sens, voilà, comme une dot. Hein, et alors, j'attire l'attention sur un petit détail, parce que ça va être important après. De superbes ustensiles, des bijoux, d'or et d'argent, de gobelets et de joyaux. Et on va voir l'histoire du gobelet parce qu'il a un petit destin un petit peu particulier dans la suite du conte.
Apparaît un cinquième personnage, si je ne m'abuse. Il s'agit de la suivante. Voilà le texte. Elle lui donna aussi une suivante qui devait l'accompagner et remettre la mariée à son époux.
Alors ça c'est assez intéressant, puisqu'on a envie de se dire, tiens, qu'est-ce que vient faire une suivante, au fond? Alors la suivante, on pourrait dire, c'est celle qui suit. Hein. C'est celle qui suit, c'est-à-dire celle qui est juste derrière, voilà, qui au fond, on pourrait dire, vit un petit peu dans l'ombre de sa maîtresse. Alors on va voir un petit peu plus loin que les rapports entre les deux femmes sont un peu compliqués. On peut quand même noter que cette suivante devait l'accompagner et remettre la mariée à son époux. Donc, on a l'impression qu'elle a une fonction particulière.
Une forme de responsabilité, en tout cas.
Voilà, une forme de responsabilité. Et que la fin de sa fonction ou la fin de sa tâche, ça sera lorsqu'elle aura remis la fille de roi à son époux.
On voit aussi la différence en termes de caractère entre la princesse et puis la suivante, dans le sens où la suivante a déjà une certaine responsabilité, j'imagine beaucoup plus d'expérience que la jeune fille, puisque c'est elle qui va la conduire au cours de ce long et périlleux voyage.
Oui, c'est important. Ce qu'on a envie de se dire, c'est que si le conte nous dit qu'il y a une suivante, c'est que cette suivante est importante. On va voir dans le fil de récit comment ça se déploie, mais vous avez raison de souligner qu'elle va avoir une fonction très particulière. J'ai bien envie de proposer peut-être dès maintenant aux auditeurs l'idée, si on est dans le domaine du symbolique, l'idée que ces deux jeunes femmes-là, ou ces deux filles, on va dire, pourraient représenter deux parties d'un même personnage.
Alors, poursuivons notre texte. Chacune d'elles avait un cheval pour le voyage, mais le cheval de la fille du roi s'appelait Falada et il savait parler. Je m'arrête tout de suite parce que c'est très étonnant dans un conte que nous ayons les noms. Généralement, c'est la reine, c'est le roi, c'est le cheval qui parle. Et là, nous avons un nom à ce cheval. Nous verrons plus tard qu'il y a un autre prénom qui apparaît.
Oui, tout à fait. C'est, vous avez raison, c'est tout à fait intéressant. D'autant que le roi n'a pas de nom, il est absent, la reine n'a pas de nom.
Ou alors ils ont des sobriquets comme le Petit Poussé ou Blanche-Neige ou Poudane. Oui, voilà. Ils ne sont pas vraiment des vrais noms, mais là on a l'impression que c'est un vrai patronyme. Quoi.
Voilà. Mais vous vous rappelez par exemple que quand on avait réfléchi sur le thème de Poudane, on s'aperçoit que la Poudane ne prend un nom qu'à partir du moment où elle reçoit la peau de l'âne. Avant, elle est... Elle n'a pas de nom. Hein. Donc, cette idée du nom est très importante. Ouais. Donc, voilà ici un cheval qui a un nom. Falada, c'est quand même un prénom plutôt féminin quand même. Hein. D'ailleurs, je suis allé chercher un petit peu l'étymologie de Falada. Je n'ai rien trouvé du tout, d'ailleurs. Mais j'ai vu qu'il y avait des pouliches actuellement qu'on appelait encore Falada. Je ne sais pas si ça vient du conte de Grimm ou quelque chose de plus ancien. Je n'ai pas réussi à trouver. Mais voilà. En tout cas, c'est un cheval, mais c'est un prénom qui sonne quand même plutôt féminin. On va essayer de comprendre ce que peut représenter en tout cas ce cheval.
En tout cas, c'est un cheval magique puisqu'il sait parler.
Et d'ailleurs, à ce propos-là, j'invite bien les auditeurs à se rappeler que ce cheval au nom féminin qui sait parler, on va se dire, bon, bah, il sait parler, quand est-ce qu'il va parler et qu'est-ce qu'il va dire ? Voilà. Hein. Or, on s'aperçoit qu'il va parler extrêmement tardivement. Et puis qu'il a quelque chose de bien particulier à dire, c'est pas tout à fait rien ce qu'il a à l'intérieur de lui-même, comme savoir.
Vous écoutez Radio Grand Ciel et je suis en compagnie du docteur Dominique Desmichel. Nous allons explorer ce conte de la gardeuse d'oie, conte des frères Grimm. Eh bien, nous étions sur le départ de cette princesse qui s'en va rejoindre son prince charmant ou pas, l'histoire ne le dit pas, dans un royaume étranger. Je poursuis donc l'histoire des frères Grimm. Quand l'heure des adieux arriva, la vieille mère se rendit dans sa chambre, prit un petit couteau et s'entailla les doigts pour les faire saigner. Elle tenait en dessous un petit chiffon blanc sur lequel elle fit tomber 3 gouttes de sang et le donna ensuite à sa fille en disant « Ma chère enfant, garde-les précieusement, tu en auras besoin en chemin. » Docteur Dominique Desmichel, là, on sent bien un moment clé de l'histoire, en tout cas hautement symbolique.
Alors, c'est un peu étrange cette scène, hein ? Voilà, on pourrait imaginer que la mère lui donne un petit doudou, par exemple, lui donne un petit gris-gris, lui donne une petite...
C'est presque un gris-gris, là, du coup. dans le sens africain du terme.
Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même un drôle de gris-gris. Hein. On pourrait penser que c'est une petite statue d'une divinité, ou on pourrait penser qu'il y a là quelque chose que les psys appelleraient par exemple un objet transitionnel. Hein. Tiens, je te donne mon écharpe à moi, pourrait dire la mère, ou je te donne quelque chose qui m'appartient, tu auras un petit peu mon odeur ou quelque chose. Non, là, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'un objet qui est un chiffon, donc qui a l'air d'être plutôt banal, quoi. C'est pas un mouchoir brodé ou brodé d'or, hein. C'est juste un chiffon. C'est-à-dire, en gros, les chiffons, c'est quand même pour la poussière, hein. Donc ça n'a pas beaucoup de valeur en soi, ou de valeur marchande, ou de valeur même symbolique. Hein.
Mais voilà. c'est pas son mouchoir préféré qu'elle porte tout le temps sur elle, après.
Exactement, exactement.
C'est étonnant, hein, ça, oui.
Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est ce qui se passe. Or, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend un petit couteau, elle s'entaille les doigts et elle les fait saigner. Alors, on a envie de se dire, bon, elle a envie de donner un petit peu de son sang à sa fille. C'est quand même une pratique un tout petit peu étrange. Alors moi, j'ai envie ici de proposer l'idée suivante, c'est-à-dire qu'au fond, cette pénétration du couteau dans le corps du doigt de la reine représenterait au fond une scène sexuée, hein. Qu'il s'agisse au fond d'un premier rapport sexuel, ou qu'il s'agisse d'une représentation en tout cas symbolique d'un rapport sexuel, il me semble en tout cas qu'il y a quelque chose autour de ça. J'entends bien qu'il ne s'agit pas de le penser simplement en termes d'organicité, mais aussi en termes de symbolicité, c'est-à-dire ici, c'est comme si la reine avait envie de dire à sa fille « Tu vas aller te marier » et en gros, le mari et sa femme, voilà, dans la nuit qui suit la noce, ou avant, peu importe, mais on est dans une dimension symbolique ici, eh ben, ils vont se retrouver à se faire des petits câlins sous la couette et il va donc y avoir un premier rapport sexuel. Donc là, voilà la mère qui met en scène quelque chose d'une sorte de première relation sexuelle entre un couteau et un doigt, c'est-à-dire globalement entre un homme et une femme. Comme si, au lieu d'aller être, au lieu d'avoir causé avec sa fille en lui disant « bon, ben voilà, je te fais un petit cours d'éducation sexuelle, au fond, hein, ce que les mamans ou les papas font avec leurs enfants », eh bien, elle lui donnait symboliquement quelque chose. Elle lui donne, mais sans rien lui dire. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'elle lui donne ? Elle lui donne une blessure, elle lui donne du sang versé, elle lui donne peut-être du chagrin, en tout cas, voilà. Mais je trouve que quand même, le don est quand même, c'est pas très très sympathique, c'est pas très glauque, qu'éventuellement une mère puisse dire, bah, tu sais, une première relation sexuelle, ça se passe pas toujours très très bien, ça peut être un petit peu difficile sur le plan physique, voilà, c'est tout à fait possible. Mais là, elle lui donne que, au fond, du blanc et du rouge, et surtout les stigmates d'une blessure, hein, et non pas les stigmates, et non pas le symbole de ce que peut être une relation sexuelle quand elle est harmonieuse, même s'il faut du temps probablement dans un couple pour trouver une relation sexuelle qui soit charnelle, qui soit affective, pleine et entière. Voilà. Donc la reine, elle lui donne, je dirais, une blessure autour de la sexualité, et probablement elle parle d'elle-même, la reine. Hein.
Je poursuis le texte des frères Grimm. C'est donc tristement qu'elles prirent congé l'une de l'autre. La fille de roi mit le petit chiffon dans son corsage, monta en selle et partit pour aller retrouver son fiancé. Au bout d'une heure de voyage, elle ressentit une soif intense et dit à sa suivante « Descends de cheval et va me puiser de l'eau dans ce ruisseau avec le gobelet que tu as emporté pour moi. Je voudrais boire un peu. Si vous avez soif, descendez-vous-même de cheval et penchez-vous au-dessus de l'eau pour boire. Je n'ai pas envie d'être votre bonne, » répondit sa suivante. » Alors voilà une remarque assez étonnante. On sent tout de suite que le conte prend une tournure tout à fait inattendue.
Voilà. On pourrait se dire, la suivante, elle est là pour faire le job. Hein. On ne lui demande pas trop ses états d'âme. On ne lui demande pas trop d'avoir des avis. On lui demande de... Voilà, elle est en gros, elle est payée pour être la suivante de la jeune femme et elle n'a pas à discuter. Donc, on s'aperçoit quand même que la fille du roi a mis le petit mouchoir avec le sang de sa mère dans son corsage et qu'au bout d'une heure de voyage, elle ressent une soif. Donc, Elle vient de partir, elle ressent une soif. On a envie de se dire, elle a soif de quoi? Évidemment, peut-être qu'il fait chaud. Mais vous savez que le conte, il faut l'écouter dans un sens symbolique. Donc, elle vient de quitter sa mère, elle n'a pas de père, et elle ressent quelque chose d'une attente. Donc, on va essayer de se dire, elle a soif de quoi? Et puis, la deuxième partie, telle que vous venez de le lire, c'est que pour ça, elle ne peut pas, elle, se prendre en charge, elle a besoin de sa suivante. Manifestement, nous dit le début du conte, elle a reçu des gobelets, des joyaux, des bijoux et tout ça, mais ce n'est pas elle qui la porte, qui les porte, c'est la suivante. Et là, on voit d'emblée qu'il y a une confrontation. C'est-à-dire qu'il y a la fille qui demande un gobelet et la suivante qui lui dit non. Je crois que c'est important ça parce que le premier ressenti, ça pourrait être... L'héroïne, c'est la fille du roi, et puis la suivante, c'est plutôt la méchante. Hein. Alors, voilà, j'invite les auditeurs à être prudents en prenant le temps de se dire, bon, qu'est-ce qui se joue? En tout cas, là, il y a un conflit. Et la suivante dit à sa patronne, lui dit, si vous avez soif, descendez vous-même de cheval. On s'aperçoit que la fille du roi... tutoie la suivante, que la suivante vous voit la fille du roi. On est bien dans l'ordre des choses sur le plan du discours, mais sur le plan du contenu, la fille de roi, eh ben, elle n'a rien à dire, elle se laisse faire en quelque sorte. Et la suivante, par contre, elle affirme sa personnalité et elle dit en gros, eh ben, allez-y, voilà. Penchez-vous au-dessus de l'eau pour boire, je n'ai pas envie d'être votre botte.
Je poursuis, comme elle avait grand soif, la fille de roi descendit de cheval, se pencha au-dessus de l'eau du ruisseau et but sans avoir le droit d'utiliser son gobelet d'or. Alors ça, c'est assez étonnant.
Ouais.
La traduction a eu du mal, hein, parce que dans une autre traduction, cette histoire de ne pas pouvoir utiliser son gobelet d'or, ça paraît un petit peu mystérieux. Hein. Donc dans une autre traduction, il est simplement dit qu'elle n'avait pas réussi à boire, qu'elle n'a pas pu boire dans son gobelet, sans donner d'autres explications.
En tout cas, moi, ce qui m'apparaît, c'est que si elle demande le gobelet, c'est qu'elle l'a pas. Si la suivante refuse de lui donner... elle ne va pas, la fille de roi, elle ne va pas chercher dans le...
Voilà, vous l'entendez comme ça.
Dans les poches.
C'est-à-dire qu'elle doit se débrouiller avec ses mains et puis...
Voilà. Voilà. Donc pour moi, elle boit avec ses mains ou elle va comme un animal laper un petit peu ou aspirer un petit peu d'eau dans la rivière. C'est la seule façon pour elle de pouvoir boire.
Elle soupira alors, « Oh mon Dieu !» Et les trois gouttes de sang lui répondirent, « Si ta mère savait cela, son cœur éclaterait de chagrin. »
Peut-être on peut lire juste la phrase d'après aussi.
« Mais la fiancée du roi était humble et remonta à cheval sans mot dire. »
Alors, qu'est-ce qu'on se dit là? On se dit qu'il y a plusieurs personnages. Il y a la fille du roi, ou la fiancée du roi, puis il y a le mouchoir ici avec les gouttes de sang et les trois gouttes de sang qui se mettent à parler, et puis il y a ce qui se joue là du côté de la position intérieure de la fille du roi. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? D'abord, on savait que le cheval parlait, mais là, c'est pas le cheval qui parle, c'est le mouchoir avec les trois gouttes de sang, ou plus exactement les trois gouttes de sang. On a envie de se dire, puisque c'est l'objet de la mère, que c'est la mère qui parle. Donc, les trois gouttes de sang disent, en quelque sorte, si moi, ta mère, je savais cela, alors j'éclaterais de chagrin. C'est-à-dire, te voyant dans cette position d'être obligé de boire avec tes mains dans la rivière, j'aurais beaucoup de chagrin. Mais, et c'est pour ça que je vous proposais de lire la phrase d'après, la fiancée du roi était humble, elle remonte à cheval sans mot dire, c'est-à-dire qu'en gros, elle ne se défend pas. Hein. Donc, elle n'a pas beaucoup, beaucoup de personnalité jusqu'à maintenant. Hein. Voilà, parce qu'elle aurait pu négocier avec la suivante ou lui dire, « Eh oh, c'est moi qui commande ici, tu me donnes le gobelet, sinon tu retournes à la maison et tu passes chez la DRH et puis hop, t'es licencié sur le champ pour faute grave. » Là, non, elle n'arrive pas à tenir sa position.
Eh bien, le temps passe et ce sera sur ces mots que nous allons terminer notre émission. Bien sûr, je vous donne rendez-vous, chers auditeurs, dans 15 jours pour connaître la suite du conte La Gardeuse d'Oie. Docteur Dominique Michel, merci beaucoup. Et puis, eh bien, vous serez là dans 15 jours également.
Merci Simon, au revoir.